sens de la vie et de la terre.
Thème : corps humain et santé. Terminal : spécialité. Grand A : comportement, mouvement et système nerveux. Chapitre 2 : le cerveau, exploration fonctionnelle, commande et fragilité. La percussion du tendon achilléen par le marteau du médecin induit un réflexe incontrôlable. Il s'agit d'une contraction inconsciente. Ce diagnostic est utilisé pour déceler des anomalies de la moelle épinière, comme on a pu le dire dans le chapitre 1. Cependant, la plupart de nos contractions musculaires sont conscientes et volontaires. Elles nécessitent donc d'autres structures de commande qui proviennent du cerveau et pas seulement de la moelle épinière. Le cerveau est la partie antérieure de l'encéphale des vertébrés. Il est composé de deux hémisphères cérébraux et possède environ 100 milliards de neurones, et d'autant plus de cellules compagnes, entre 10 à 50 fois plus, qu'on appellera des cellules gliales. C'est un centre nerveux décisionnel extrêmement important, mais pour autant fragile. Même s'il est doué de plasticité, il est également très sensible à certaines substances exogènes. Alors, quel problème pouvons-nous nous poser? Comment est organisé notre cerveau? Comment la commande motrice volontaire s'effectue-t-elle? Comment peut-on diagnostiquer des dysfonctionnements? Et enfin, comment préserver cet organe si précieux? Alors tout d'abord, allons voir dans un grand 1 l'exploration et la compréhension de l'organisation du cerveau. Et en tout premier dans un grand A, l'amélioration des techniques et donc leur évolution au cours du temps. C'est durant la seconde moitié du XXe siècle que des technologies vont se développer pour mieux cerner la structure et le fonctionnement du cerveau sans être invasives. Parmi les progrès techniques en imagerie médicale, l'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, reste certainement la plus précise de toutes. Alors, quels sont les types d'IRM que l'on peut pratiquer? Tout d'abord, l'IRM anatomique. Alors, c'est l'exploitation des propriétés magnétiques de l'eau. On a une vision ainsi fine de l'anatomie cérébrale. Et on a plusieurs techniques de contraste qui peuvent être utilisées pour améliorer la vision de certaines régions. L'IRM fonctionnel. Lui, c'est une évaluation sur la consommation de dioxygène d'une zone du cerveau lors de l'exécution d'une tâche simple. L'IRM fonctionnel s'étudie toujours en le superposant à un IRM anatomique de la même personne. Cet IRM permet donc de visualiser la plus grande activité d'une zone en relation avec l'exécution d'une tâche. Dernier type d'IRM, c'est l'IRM de diffusion. Il s'agit d'enregistrer un signal sensible au déplacement des molécules d'eau. Elle permet de visualiser donc différentes connexions entre les aires du cerveau lors de l'exécution d'une tâche, et on visualise ainsi un connectome structurel ou anatomique. Il s'agit donc des trajets d'axones. Alors que voit-on dans un IRM anatomique classique ? Alors tout d'abord, tout ce que vous voyez en hyposignal, c'est ce qui est noir, tout ce qui est en hypersignal, c'est blanc. Lorsqu'on fait une première prise d'IRM en T1, le liquide céphalo-rachidien est en hyposignal, donc apparaît en noir. On a donc les tissus qui apparaissent en gris foncé jusqu'à du blanc. À l'exception du noir qui est le liquide, tout ce qui est gris foncé, tout ce qui sera plus foncé, sera riche en corps cellulaire, donc sera plus dense. A l'inverse, tout ce qui apparaîtra blanc sera moins riche en corps cellulaire. Avec une prise de signal T2, c'est l'inverse. Le liquide céphalo-rachidien est en hypersignal, c'est-à-dire en blanc. Et donc on inverse les couleurs. Cela nous permet parfois de mieux cerner finalement quelques zones. Cependant, la vision du liquide céphalo-rachidien en blanc intense gêne parfois l'observation. C'est pourquoi il y a une troisième technique que l'on appelle flair et qui, elle, est utilisée en méthode T2, mais en supprimant le liquide céphalo-rachidien qui apparaît en blanc et en le mettant en noir. Du coup, nous arrivons à mieux cerner certaines zones proches du liquide céphalo-rachidien. Ces trois techniques ne sont pas à savoir pour le baccalauréat. Néanmoins, La légende des techniques est souvent donnée, et donc cela peut vous permettre de vous y retrouver un peu mieux. Toujours est-il que pour le baccalauréat, ce qui est important, c'est de bien voir qu'on a une densité de cellules. Et c'est cette densité de cellules qu'on analyse en IRM anatomique. Ce qui intéresse le médecin, notamment, ce sont des zones de dysfonctionnement. Quelles sont-elles ? Soit vous avez des artérioles ou des artères bouchées, auquel cas vous aboutissez à une nécrose de certaines cellules. On parle d'AVC ischémique. Ou alors, vous avez un épanchement sanguin qui aboutit aussi à la nécrose de certaines cellules, mais l'épanchement sanguin se voit bien. Donc du coup, on a une zone qui apparaît très noire, très foncée, si on est en T1. Dans ce cas-là, on a un AVC hémorragique. Enfin, dernier point, vous pouvez avoir des zones sous la forme d'un petit noyau ovoïde qui apparaissent très blancs, donc très contrastés, et qui sont la signature tout simplement de prolifération cellulaire qui signe des tumeurs. Ces trois pathologies aboutissent à des lésions importantes d'air cérébral. Or, ce type de lésion n'aurait pas pu être détecté avec d'autres techniques. Nous avons donc, grâce à l'IRM, une technique majeure, non invasive et très précieuse pour la médecine, car elle nous permet de réaliser des observations fines des tissus mous du corps. D'ailleurs, la technique est en cours d'amélioration par l'utilisation notamment d'aimants nettement plus puissants. Alors juste une petite remarque pour un retour en arrière en ce qui concerne les images pondérées de T1, T2 et FLAIR. Dans une image pondérée en T1, la graisse apparaît en hyper intense, c'est-à-dire en couleur claire, et l'eau hypo-intense, c'est-à-dire en noir. Les nuances sont liées à la présence plus ou moins grande de l'eau ou de la graisse. En T2, c'est l'inverse, et en T2 flair, le liquide céphalo-rachidien seul est rebasculé en hypo-intense. Alors à noter que les axones sont toujours entourés de gaines de myéline et que les membranes sont riches en lipides. A l'inverse, les corps cellulaires présentent un cytoplasme plus important que le reste et donc contient plus d'eau que les axones eux-mêmes. C'est bien ces différences-là qu'on exploite en IRM. Alors voyons maintenant quelles sont les grandes aires fonctionnelles du cerveau. Grand B, comprendre les aires fonctionnelles. L'exploration fonctionnelle permet de cartographier le cortex. Le cortex désigne la partie superficielle du cerveau et contient la substance grise des hémisphères cérébraux. Alors allons un peu plus loin. Pourquoi chaque hémisphère porte un nom ? En fait, chaque hémisphère se décompose automatiquement en quatre parties externes. Chaque partie a été rattachée en fait aux os correspondants du crâne. C'est pourquoi on a appelé donc ces parties du cerveau lobe, lobe frontal, pariétal, temporal et occipital. Alors qu'appelle-t-on aire corticale ? Une aire corticale est une zone du cortex dédiée à une fonction précise. Ainsi, on distingue trois types d'aires différentes. Alors tout d'abord, les aires sensorielles. Il s'agit à ce niveau de la perception et de l'interprétation des stimuli de l'environnement. Ensuite, on a les aires motrices. Là, c'est la commande volontaire des muscles squelettiques. Et enfin, les aires associatives qui mettent en commun les informations sensitives, prémotrices et celles du langage. Alors, petite information complémentaire. En fait, dans la recherche de septembre 2017, la cartographie du cerveau a été réactualisée. Elle compterait en fait 180 régions au lieu de 83 répertoriées avant. C'est ici une démonstration des progrès fulgurants accomplis sur l'étude du cerveau en moins d'une décennie. En connaissant plus précisément les aires cérébrales, on peut mieux soigner certaines pathologies. Grand C, les cellules du cerveau. Et tout d'abord, les neurones. Alors, ils peuvent se classer soit par rapport à leur fonction, soit par rapport à leur morphologie. Par rapport à leur fonction, si le message part d'un récepteur pour aller au système nerveux central, on parlera de neurones sensitifs. Si le message part du centre nerveux pour atteindre une cellule effectrice, on parlera de motoneurones ou neurones moteurs. Si le message est véhiculé par un neurone qui fait le lien entre deux neurones, on parle d'interneurones. Ils peuvent aussi se classer par leur morphologie. Si plusieurs ramifications se réunissent en un dendrite et rejoignent directement un corps cellulaire pour ensuite donner un axone de même longueur qui se ramifie, il est qualifié de bipolaire. Certains neurones sensitifs sont bipolaires. Si le dendrite est très long et la ramification au corps cellulaire forme un T, il est qualifié d'unipolaire ou pseudo-unipolaire. C'est le cas du neurone sensitif rachidien. Si les dendrites sont au contraire très courts et l'axone très long, il s'agit d'un neurone multipolaire. Généralement, c'est le cas des motoneurones. Enfin, si le corps cellulaire est plus ou moins triangulaire et que la ramification dendritique est très étendue et dense, il s'agit de neurones pyramidaux. Ils sont présents en grand nombre dans l'hippocampe, par exemple, c'est-à-dire dans le cerveau. Alors pendant très longtemps, on s'est focalisé sur les cellules nerveuses, c'est-à-dire les neurones, et très peu sur les cellules gliales. Aujourd'hui, c'est un domaine sur lequel la recherche est focalisée et avance à grands pas. Alors qu'est-ce que les cellules gliales ? Ce sont toutes les autres cellules qui ne sont pas des neurones et qui participent à la constitution du tissu nerveux. Elles ont toutes des rôles importants dans l'entretien des neurones et l'accompagnement des neurones. Certaines sont tellement importantes qu'elles modulent le message nerveux. Alors voyons les principales cellules du système nerveux central, c'est-à-dire accompagnant les neurones du cerveau et de la moelle épinière. On trouve donc 4 grands types de cellules gliales. D'abord les ependymocytes. Ce sont des cellules qui produisent le liquide céphalo-rachidien, encore appelé liquide cérébro-spinal. Il a pour fonction de protéger le centre nerveux des chocs et il a aussi un rôle nutritif et évite au cerveau de s'écraser sous son propre poids. Les astrocytes. Ce sont des cellules étoilées, très ramifiées, d'où leur nom. Elles assurent l'élaboration de la barrière hémato-encéphalique et le transport de molécules particulières aux neurones. Elles participent au processus de cicatrisation en cas de lésion et participent à la régulation de la transmission synaptique. Elles modulent donc la transmission synaptique. Les microgliocytes, ou encore appelés la microglie. Ce sont des cellules immunitaires spécifiques du système nerveux central apparentées à des macrophages dans leur rôle. Effectivement, le cerveau étant étanche au sang, il possède donc son propre système immunitaire. Enfin, les dernières cellules gliales que je vais citer au niveau du système nerveux central sont les oligodendrocytes. Alors, ce sont des cellules de petite taille spécialisées dans l'élaboration de la gaine de myéline, autour des axones et des neurones du système nerveux central. A noter que un oligodendrocyte assure plusieurs gaines de myéline. Alors sinon, quelles sont les cellules gliales dans le système nerveux périphérique? Donc en dehors du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau et de la moelle épinière. Alors tout d'abord, ce qu'on a vu, c'est les cellules satellitales autour du neurone sensitif en T, donc autour du corps cellulaire lui-même. Deuxièmement, ce qu'on a vu, ce sont les cellules de Schwann. Pourquoi? Parce qu'elles assurent la gaine de myéline au niveau des nerfs eux-mêmes. Donc cette gaine de myéline trouve son origine par 2 cellules de type différent. Les oligodendrocytes, qui sont situés dans le système nerveux central et qui assurent plusieurs gaines de myéline, et les cellules de Schwann, qui, à elles seules, assurent une gaine de myéline au niveau du système nerveux périphérique, c'est-à-dire des nerfs. Alors voyons maintenant le grand 2, la commande motrice volontaire, et rôle intégrateur du motoneurone. Et on va tout d'abord commencer par un grand A, les aires corticales du mouvement, et plus spécifiquement, la commande corticale. Alors grâce à l'IRM fonctionnel, on peut rendre compte des aires corticales directement liées à la motricité volontaire. On parle des aires motrices primaires ou du cortex moteur primaire. Attention, ça fait partie de l'argumentation que vous pouvez avoir, tout simplement en utilisant un IRM fonctionnel et en disant que telle aire active par exemple ma main gauche. On peut observer également en amont des territoires qui sont responsables de la planification dans l'exécution des mouvements. On parle des aires prémotrices et du cortex prémoteur. Ne pas oublier aussi l'aire supplémentaire. Elle coordonne et planifie les gestes complexes impliquant une séquence de mouvements ou la coordination en fait de plusieurs membres. Enfin, l'aire associative préfrontale et dorsolatérale. Le cortex préfrontal dorsolatéral reçoit des informations du cortex pariétal postérieur. Il nous permettrait d'évaluer notre environnement en localisant les objets et en reconnaissant leur nature. Il est donc indispensable aussi au mouvement. Alors reprenons dans l'ordre. Le cortex associatif permet d'analyser et de définir l'environnement à l'aide de différentes aires sensitives. Puis, les mouvements sont planifiés par l'aire prémotrice, accompagnés de l'aire supplémentaire si les mouvements sont complexes et mettent en association plusieurs membres. L'aire prémotrice transmet alors à l'aire motrice pour l'exécution directe des commandes motrices. Cette dernière aire implique des neurones aux axones très longs qui vont descendre le long de la moelle épinière jusqu'à la corne dorsale de la moelle épinière pour enfin repartir sur les motoneurones correspondants. Alors justement, maintenant, essayons de voir quelles sont les voies nerveuses du cerveau aux muscles. Les messages nerveux moteurs qui partent du cerveau cheminent par des faisceaux de neurones et descendent dans la moelle épinière. À différents niveaux, ces neurones sont en connexion synaptique avec les motoneurones eux-mêmes. Ces voies motrices sont croisées, de telle sorte que la commande des mouvements volontaires est contralatérale. C'est l'aire motrice de l'hémisphère cérébral droit qui commande la partie gauche de votre corps et inversement. Les motoneurones intègrent donc différentes données. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le rôle intégrateur du motoneurone grand B. Le motoneurone reçoit de multiples informations, d'autres neurones, sensitifs, interneurones, neurones provenant du cerveau. Et de cette multitude d'informations ne partira qu'un seul message nerveux ou pas, selon la stimulation, vers la fibre musculaire dont il est responsable. Alors comment cela fonctionne? Chaque synapse, partagée avec le corps cellulaire du motoneurone, va jouer un rôle important. Une synapse peut être excitatrice, tandis que sa voisine peut être inhibitrice. Le motoneurone intégrera la sommation de toutes ces informations et délivrera alors, ou non, son message nerveux à la fibre nerveuse avec laquelle il est relié. Il est très important de bien saisir qu'à un motoneurone ne correspond qu'une seule fibre nerveuse. Selon la stimulation, la fréquence de potentiel d'action variera et donc l'intensité de la réponse aussi. L'intégration du motoneurone peut être spatiale, c'est-à-dire c'est la sommation de l'ensemble des neurones qui se connectent à ce motoneurone. Mais elle peut être aussi temporelle, c'est-à-dire si on a des informations qui arrivent coup sur coup en même temps ou presque en même temps et qui vont se sommer dans le temps, à condition que l'intervalle soit court. Retenez bien les schémas qui vous sont donnés sur cette sommation et sur le rôle intégrateur du motoneurone, puisque c'est une question qui revient quand même assez souvent au baccalauréat. Ces schémas peuvent d'ailleurs servir à l'argumentation, à condition d'indiquer qu'il y a des électrodes stimulatrices et en même temps des électrodes réceptrices du message. Grand 3, quand le système nerveux central dysfonctionne. Les dysfonctionnements du système nerveux peuvent être multiples. Ce qui suit est loin d'être exhaustif, mais présente quelques causes différentes. Dans votre programme, vous devez connaître des accidents cérébraux, les tumeurs et aussi un exemple de maladie neurodégénérative. Alors commençons par des exemples d'accidents. Alors petit 1, que se passe-t-il lors d'une rupture de colonne vertébrale? Alors si la colonne vertébrale permet le maintien de la moelle épinière, en revanche une fracture peut créer une section de cette dernière. Il en résulte alors une interruption de tous les faisceaux descendants du cerveau vers les muscles et ascendant, inversement, ce qui entraîne une paralysie définitive de l'individu. Si les deux membres inférieurs sont paralysés, on parlera alors de paraplégie. Si ce sont les quatre membres qui sont touchés, on parlera alors de tétraplégie. Petit 2, qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral ou AVC? Quelles en sont les conséquences? Un accident vasculaire cérébral résulte d'un problème vasculaire au niveau du cerveau. En effet, le bon fonctionnement du cerveau est assuré par une étanchéité totale des vaisseaux sanguins. Cela est dû aux équilibres ioniques d'une part, comme par exemple le sodium et le potassium, mais également à celui des neurotransmetteurs, comme autre exemple le glutamate. En effet, le glutamate est un acide aminé, donc présent dans le sang. Or, c'est aussi le neurotransmetteur majoritaire dans le cerveau. Donc il ne faut pas qu'il y ait de sang qui rentre au niveau du cerveau et que ce glutamate arrive exciter des synapses. Cela explique aussi que le système nerveux central possède ses propres cellules immunitaires, les microgliocytes ou ce qu'on appelle la microglie. D'autre part, le cerveau est un gros consommateur d'énergie. Il faut donc en permanence du sucre et de l'oxygène, en plus de tous les autres nutriments. Il existe donc deux possibilités d'AVC, dont la prise en charge est complètement différente. Les premiers types sont qualifiés d'infarctus cérébraux. Ce sont des thromboses ou embolies cérébrales. Tout ceci signifie la même chose. Les vaisseaux sanguins sont obstrués. Le dioxygène et les nutriments n'arrivent plus au niveau de l'air cérébral alimenté par ce vaisseau sanguin, ce qui entraîne une mort des neurones concernés. La zone de l'air cérébral est alors non fonctionnelle. Les autres types d'AVC sont des hémorragies cérébrales, qu'on appelle encore des méningées, ou encore des ruptures d'anévrisme. Cela correspond à des épanchements sanguins, car il y a la rupture de la paroi d'artère cérébrale. Le sang franchit alors la barrière hémato-encéphalique. La pression sanguine augmente très rapidement, avec puissance, au niveau de l'hémorragie, et cela entraîne la mort des neurones. Il faut alors agir dans l'urgence. Le traitement de ces deux AVC n'est pas du tout le même. Dans un cas, on a un caillot sanguin qui bouche l'artère et qu'il faut déboucher. On va utiliser par exemple des anticoagulants en traitement. Dans l'autre, c'est au contraire un épanchement sanguin et il faut à tout prix refermer l'artère elle-même et voire donner des coagulants. Un autre type de pathologie cérébrale peut être décelé grâce aux IRM, ce sont les tumeurs. Donc grand B, les tumeurs. Une tumeur est formée par des cellules, plus exactement des cellules gliales, qui se multiplient de façon anarchique, formant un amas de plus en plus gros. Cet amas prend non seulement la place de cellules nerveuses originelles, mais génère aussi des toxines tellement importantes qu'elles ont des conséquences sur les cellules voisines. Il en résulte alors une impossibilité de fonctionner à l'endroit de la tumeur et parfois des dysfonctionnements dans les régions voisines à cause de la pression exercée par la tumeur et à cause des toxines libérées. Alors quels sont les symptômes ? Les symptômes que présentent les patients atteints de tumeurs cérébrales sont très variés et dépendent de la localisation en fait de la tumeur et de l'aire qu'elle affecte. Cela peut aller du trouble du langage ou de la vue à des problèmes moteurs ou des pertes d'équilibre. Voyons maintenant le cas d'une maladie neurodégénérative comme la sclérose en plaques. Donc grand C, la sclérose en plaques, une maladie neurodégénérative. La sclérose en plaques, ou SEP, est une maladie auto-immune ciblant les cellules du système nerveux central fabriquant la gaine de myéline. Ainsi seront touchés le cerveau et la moelle épinière. On parle de maladie démyélinisante, ce n'est pas la seule. Elle touche principalement des zones de la substance blanche ciblées par des lymphocytes activés ayant franchi la barrière hémato-encéphalique. La conséquence est une mauvaise conduction, voire un blocage du message nerveux le long de l'axone, entraînant des troubles variés. Le message nerveux ne peut plus aller de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, et souvent, ce sont des zones de la substance blanche au contact du liquide céphalo-rachidien qui sont principalement touchés. Les symptômes que présentent les patients atteints de SEP sont variés et dépendent, comme la tumeur, de la localisation des zones démyélinisées, soit au niveau du cerveau, soit au niveau de la moelle épinière. Cela peut aller de troubles sensitifs, de la vue, à des problèmes moteurs ou des pertes d'équilibre. Le mécanisme qu'il y a derrière est une activation de lymphocyte B, qui va produire des anticorps ciblant la gaine de myéline et des lipides de la gaine de myéline, ce qui va entraîner une activation des microgliocytes qui vont s'attaquer à cette gaine de myéline. Rappelons que dans le système nerveux central, ce sont les oligodendrocytes qui sont responsables de la gaine de myéline. Donc cela cible les oligodendrocytes. Grand D, la prise de substances exogènes. La prise de substances exogènes peut interagir plus ou moins puissamment avec certains mécanismes moléculaires du système nerveux. Beaucoup de substances interagissent avec les synapses. On distingue principalement deux types de substances suivant leur interaction. Alors tout d'abord les agonistes, comme par exemple la muscarine, la nicotine. Cela peut empêcher la dégradation de l'acétylcholine ou alors mimer son effet. Dans ce cas-là, on aura une stimulation plus forte. Et puis les antagonistes. Les antagonistes comme par exemple le curare. Ils vont à l'encontre de la transmission nerveuse. Dans le cas du curare, ce dernier se fixe sur les récepteurs cholinergiques et empêche la transmission de l'information nerveuse. Enfin, si certaines substances peuvent agir localement sur la transmission nerveuse, d'autres peuvent agir en amont sur les voies volontaires. Dans ce cas, elles interfèrent avec votre cerveau. Alors revenons sur certaines d'entre elles. L'alcool, la nicotine ou les drogues sont des substances pouvant provoquer de l'addiction. C'est la répétition de la prise de ces substances, tout en connaissant les dangers de leur effet négatif, que l'on appelle l'addiction. Ainsi, l'addiction se fonde sur l'augmentation du taux de dopamine, qui est un neurotransmetteur du système de récompense ou de renforcement. Les personnes ayant un fort taux de dopamine auraient davantage tendance à poursuivre des conduites dites à risque ou à rechercher ces situations, dont l'usage de stupéfiants, les jeux de hasard ou les paris. Les régions essentielles du cerveau pour le contrôle de la motivation et du renforcement émotionnel sont l'aire tegmentale ventrale ou ATV et le noyau accumbens. Lors d'une sensation plaisante, l'aire tegmentale ventrale est activée. Celle-ci libère de la dopamine vers le noyau accumbens, le septum, l'amygdale et le cortex préfrontal. C'est ce qu'on appelle le circuit de récompense. Toutes les drogues ne provoquent pas de la même manière une augmentation du taux de dopamine dans le cerveau. Certaines augmentent la sécrétion du neurotransmetteur, soit en bloquant le neurone inhibiteur en amont, soit en stimulant un neurone excitateur en amont, soit en bloquant le recyclage du neurotransmetteur directement au niveau du neurone dopaminergique via un astrocyte. Alors arrêtons-nous un tout petit peu sur l'usage du cannabis en France. C'est la drogue la plus consommée dans le monde et notamment en France. Mais pourtant, il y a peu de recherches, sauf ces derniers temps, quelques recherches qui nous alertent sur les effets très délétères du cannabis. À noter que les consommateurs ont des taux de THC de plus en plus élevés. Dans le cannabis, de nombreuses substances interfèrent avec notre système nerveux. Il y a plus de 60 cannabinoïdes, dont le THC et le CBC. C'est la découverte en 1964 du THC qui a mené à la découverte du système endocannabinoïde actif dans notre système nerveux. Toujours en France, 54% des élèves de terminale avouent avoir déjà expérimenté le cannabis. 25% d'entre eux, soit un quart des élèves, avouent un usage mensuel du cannabis. Et enfin, 9% des élèves de terminale interrogés avouent un usage quotidien du cannabis. Lors de la consommation de cannabis, de nombreuses aires cérébrales sont touchées puisqu'elles possèdent des récepteurs cannabinoïdes. Notamment l'ATV, qui produit alors de la dopamine, puis l'envoie dans d'autres zones cérébrales, comme le noyau accumbens, centre du plaisir du cerveau, à l'origine d'effets gratifiants, ou le septum, effet orgasmique, ou l'amygdale, réaction comportementale, et le cortex préfrontal, de l'humeur. Ce dernier est responsable donc des émotions, de l'apprentissage et du contrôle des impulsions, et permet à la personne d'apprendre et de répéter les comportements sources de gratification. Il y a donc de l'addiction. C'est même pire que ça, puisqu'une étude de l'Université de Washington, lors de stimulations olfactives et visuelles, a montré que les systèmes de récompense étaient activés juste par simple vision ou simple ressenti olfactif. chez les consommateurs de cannabis. Alors que la vision de cannabis chez quelqu'un qui n'a jamais consommé de cannabis ne fait rien. Cela a pour conséquence que lors de soirées, si quelqu'un a déjà consommé en fait du cannabis, si jamais il voit du cannabis ou si jamais il sent du cannabis, il aura fortement envie d'en consommer. Alors que provoque le THC ? Il inhibe la sécrétion de GABA, c'est-à-dire d'un neurone inhibiteur, le neurone dopaminergique lui-même. Celui-ci n'a plus de frein et sécrète alors de la dopamine empruntant la voie du circuit de la récompense de l'ATV, et à fond. Une autre étude réalisée par l'Université de Londres montre la distribution des récepteurs cannabinoïdes dans le cerveau humain. Et les régions qui présentent une forte concentration de ces récepteurs sont les suivantes. L'amygdale, le cervelet, le gyrus cingulaire, le noyau moteur dorsal du vague, le cortex entorhinal, le globus pallidus et une formation hippocampique, le gyrus frontal moyen, la substance noire et l'aire de Wernicke. Or, la formation hippocampique ou l'hippocampe est une zone de mémorisation à court terme, autrement dit qui est très fortement impliquée dans la mémoire de travail. Or, l'une des fortes conséquences de la consommation de cannabis est justement de ne plus avoir la faculté d'enregistrer, de mémoriser. Le consommateur quotidien entre alors dans une spirale de décrochage scolaire. Grand 4, la plasticité cérébrale. Alors qu'est-ce qu'on entend par plasticité cérébrale ? C'est la capacité du cerveau à rétablir ou à remodeler ses connexions en fonction de l'environnement et des expériences vécues. Lors d'un accident vasculaire cérébral, par exemple, on s'aperçoit que certains patients arrivent à récupérer partiellement leur capacité motrice. Tout dépend bien sûr de l'importance de la lésion initiale. La bonne rééducation sera alors primordiale pour que les progrès puissent s'observer. À force de répétition, l'individu va rétablir de nouvelles connexions. À l'IRM, il apparaît qu'une réorganisation s'effectue autour de la zone touchée. Parfois, la réorganisation se fait au détriment d'autres aires et est de toute manière liée à la création de nouvelles synapses. On appelle ça de la synaptogenèse. Or, la synaptogenèse n'intervient que lors de stimulations apprenantes et des tests alternatifs et répéter. Cela signifie qu'une nouvelle interface synaptique est créée avec une activation de gènes permettant la synthèse de toutes les protéines nécessaires à la membrane plasmique de l'élément présynaptique. Dans tous les cas, la plasticité cérébrale est variable selon les individus et prend du temps. À noter que les processus de mémorisation sont aussi liés à la plasticité de notre cerveau, comme par exemple celle de l'hippocampe. À une synapse créée, dont le mécanisme est la potentialisation à long terme, une mémorisation solide et durable est réalisée. De la même façon, la perte de mémoire durable d'une notion autrefois ancrée est liée à la perte d'une synapse. Dans le cas d'une sclérose en plaques, une remyélinisation des axones, même partielle, peut permettre au patient de retrouver certaines de ses fonctions. Dans ce cas particulier, on parle aussi de plasticité cérébrale. Si la plasticité cérébrale varie bien en fonction de l'âge et des zones considérées, elle peut aussi être pondérée par les apprentissages et les stimulations du cortex. Cela signifie donc que nous avons un patrimoine nerveux et que chacun de nous doit veiller à le préserver, voire à le stimuler pour en étendre ses capacités. Il est très important de prendre conscience de cela. Alors pour conclure sur ce cours, le réflexe myotatique apparaît bien simple au regard des commandes volontaires du mouvement. Les investigations par les études de cas cliniques ou par IRM fonctionnel ont permis de mieux cerner les territoires nerveux supérieurs de ces commandes et leur relais jusqu'aux fibres nerveuses. Cependant, les accidents ne sont pas toujours définitifs et l'apprentissage permet de réorganiser les réseaux neuronaux. Cela s'appelle la plasticité cérébrale. C'est un peu notre super pouvoir. Cette plasticité varie selon les âges et les territoires. Cependant, même si cette variabilité existe, il est important de garder à l'esprit que notre capital nerveux doit être préservé par de multiples stimulations, et notamment pour l'apprentissage. La recherche est encore extrêmement active dans l'exploration fonctionnelle du cerveau, car bien des mécanismes restent encore à décoder au niveau fonctionnel. Mais rappelez-vous, le cannabis a des effets très délétères sur votre cerveau et notamment sur l'apprentissage. Donc n'y touchez pas. J'espère que grâce à ce cours, vous en savez plus sur les commandes volontaires et votre cerveau et qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours. Thank you.